France Culture.
Réplique à la découverte de Sioran avec Jean-Paul Enthoven et Fabrice Luchini. La théologie serait dépourvue d'objets, la création fictive, le néant péremptoire. S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est Dieu. Chaque samedi, lorsque se fait entendre le générique de réplique, je pense à ces mots si délicieusement profonds de Sioran et j'esquisse un sourire intérieur. D'ailleurs, je pense souvent à Sioran. Je me replonge en son œuvre, je savoure ses exagérations, je m'émerveille de son maniement de la langue française, je recueille pieusement certains de ses aphorismes, je m'agace parfois de le voir prendre ses quartiers dans le pessimisme radical, et j'ai envie de faire partager mes sentiments. L'occasion m'en est donnée aujourd'hui par le beau livre de Jean-Paul Enthoven, « Je me retournerai souvent », et par le spectacle éblouissant de Fabrice Luchini au Théâtre des Mathurins à Paris, l'art du portrait selon Sioran. Comme le révèlent les pages sensibles que vous lui consacrez, Jean-Paul Enthoven, vous avez sur Luchini et moi l'avantage inestimable d'avoir connu et fréquenté Sioran. Or, celui-ci a écrit « Tant la solitude me comble que le moindre rendez-vous m'est une crucifixion ». Et on lit dans ses cahiers, j'écrirai sur ma porte, « Toute visite est une agression, ou n'entrez pas, soyez charitable, ou tout visage me dérange, ou je n'y suis jamais, ou maudit soit qui sonne, ou je ne connais personne, ou fou dangereux. » Comment donc avez-vous fait pour vaincre la méfiance du solitaire de la rue de Léon, et que représente pour vous cette amitié improbable, Jean-Paul Enthoven?
Ça s'est passé très naturellement grâce à un poète libanais, un merveilleux poète qui s'appelle Fouad Elettre, qui animait une revue qui s'appelait La Délirante, dans laquelle Sioran écrivait. Et je l'ai rencontré grâce à Fouad et nous avons sympathisé étrangement. Après coup, j'ai trouvé des raisons à l'amitié un peu excessive qu'il
C'était
semblait.
C'était en quelle année?
Ça devait être en 72. Et à ce moment-là, enfin, nous marchions surtout. Nos rendez-vous étaient des rendez-vous de marche. Je ne suis allé dans son grenier qu'une seule fois.
Ah, quand même?
Oui.
Mais vous y êtes allé?
Oui. C'était des rendez-vous de marche à tel point qu'un jour, Pivot l'avait invité et il m'avait demandé de le représenter parce qu'il était hors de question qu'il paraisse à la télévision. Et le lendemain, une anecdote assez marrante, à l'époque, Apostrophe était vue par la France, n'est-ce pas?
Et oui, je me souviens.
Nous marchions dans le Luxembourg et comme les passants, les téléspectateurs de la veille m'avaient vu, ils croyaient que c'était moi, Sioran. Donc, ils me demandaient des autographes pendant que Sioran était à côté de moi et Sioran disait, vous voyez comme c'est facile de devenir invisible, je ne comprends pas pourquoi les gens s'y refusent. Donc voilà, et puis l'amitié a continué comme ça. Si on disait que c'était un écrivain, ça se répète ou ça se contredit. Il disait souvent ça, et je l'ai souvent pris en flagrant délit de contradiction, mais ça faisait partie de... C'était pas un homme d'idées, c'était un homme d'obsession, et je considère rétrospectivement comme un privilège de l'avoir rencontré, même si, après sa mort, longtemps après sa mort, j'ai découvert un autre Sioran. Je citerai à ce propos une phrase de La Rochefoucauld qu'il aimait beaucoup citer lui-même. Il disait « Les hommes sont parfois aussi différents d'eux-mêmes que des autres ».
Je me tourne vers Fabrice Luchini. Vous n'avez pas rencontré Sioran. C'est une connaissance livresque. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui vous a poussé à lui consacrer un spectacle, Fabrice Luchini?
La première chose, c'est que
Avec Hugo, je suis heureux parce que je suis, depuis un an et demi, dans la vitalité, dans la puissance. Donc, comme je le jouerai encore longtemps, Victor Hugo, j'avais le désir de trouver un lien avec ce bouquin qui est vraiment mon livre de chevet pendant une dizaine d'années, qui était Les Cahiers, et qui n'est pas du tout le Cioran, fabricant de phrases, qui n'est pas du tout le... Moi, le philosophe, je vais vous dire modestement, je n'ai pas la légitimité pour avoir une opinion, mais le philosophe qui tourne autour de la difficulté de naître, de l'inconvénient d'être né, des syllogismes, de l'amertume, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse modestement, c'est cet homme roumain qui abandonne la langue roumaine pour avoir une langue qui s'appelle la langue française, qui est comme pour lui une sorte de camisole de force, c'est ça qu'il emploie souvent, et qui devient une sorte, comme l'a dit très bien M. Antoven, eh bien, ça devient un grand moraliste. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que, par l'intermédiaire du bouquin qui s'appelle « Anthologie du portrait », j'ai compris que je pouvais communiquer l'amour de ce journal, journal qu'il a écrit pendant 20-30 ans, là, celui-là dont on parle, 53-72, à l'époque où vous l'avez rencontré, enfin, que vous l'avez connu, et il paraît qu'il l'a continué dans un autre qui un jour sortira. Et celui-là, c'est une merveille, pour vous donner un exemple de l'admiration que j'ai pour ce journal, qui s'appelle « Les Cahiers ». C'est le Cioran pas du tout sérieux, c'est le Cioran pas philosophe, c'est le Cioran qui ne se regarde pas écrire admirablement. J'allais dire une connerie, vous allez me rétablir parce que vous êtes quand même plus aigu que moi de ce côté-là. C'est pas stendhalien le cahier, mais c'est sans effort. Et par exemple, j'adore en 66, 2h du matin, écrit Cioran, j'ai dîné chez des amis à Montmartre, la concierge faisait le service. J'ai parlé tout le temps, mais comme un hystérique. La concierge a dit à la maîtresse de maison « Quel homme intéressant !» Là-dessus, j'ai dit à la maîtresse de maison « Je veux l'épouser !» Et la concierge, qui est mariée, m'a lancé un regard nostalgique en partant. Et il termine en disant « Sans commentaire !»
Ben oui, c'est sûr, hein. Déjà drôle. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister maintenant, après ces présentations, si j'ose dire, c'est la langue et c'est la drôlerie. La drôlerie qui est aussi présente, Fabrice Luchini, dans ses œuvres que dans ses carnets, nous le verrons. Mais la langue, camisole de force. En effet, Cioran, dans les exercices d'admiration, dit que cette langue française, il est roumain, va à l'encontre de sa nature débordante, éruptive, un mélange de camisole de force et de salon. Magnifique. Mais en même temps, il a cette phrase que je trouve admirable et qui, par les temps qui courent, donne à penser. Aujourd'hui que cette langue est en plein déclin, ce qui m'attriste le plus, c'est de constater que les Français n'ont pas l'air d'en souffrir. Et c'est moi, rebut des Balkans, qui me désole de l'avoir sombrée. Eh bien, je coulerai inconsolable avec elle. Comment peut-on commenter ça, Jean-Paul Entoven?
La camisole de force, c'est une affaire très intéressante parce que Cioran s'était beaucoup trompé en roumain et il a donc choisi de se purifier lui-même en choisissant la langue la plus compliquée dans laquelle il allait moins s'égarer. Et il choisit le français après avoir tenté de traduire Valéry et Mallarmé en roumain. Il choisit le français comme un exercice de pénitence, un peu comme Chateaubriand écrit La vie de Rancé. C'est un devoir pieux et il choisit le français le plus cristallin, le plus pur. Il n'aimait pas les écrivains dont l'œuvre était indexée sur l'époque. Il aimait les écrivains qui auraient pu être écrivains aujourd'hui, hier, avant-hier, comme Pascal, comme Kierkegaard, c'est ça qui était important pour lui. Mais c'était une langue qui le brutalisait. Il avait l'impression de s'y couler douloureusement. Il pensait que c'était une langue pour les idées, parce qu'il pensait que c'était impossible d'être poète en français, curieusement.
Oui, d'ailleurs, ces poètes, c'était Yeats et Emily Dickinson.
Oui, bien sûr. Oui. Et donc, il souffrait terriblement. Rien n'était plus... Enfin, il me le confie, enfin, il le confie à beaucoup de gens. Rien n'était plus difficile pour lui que de polir une métaphore. Et il s'entretenait souvent, parce qu'il y avait trois Roumains à Paris, Ionesco, Mircea Eliade et lui-même. Et il admirait ses compatriotes surtout Ionesco d'ailleurs, qui écrivait son problème. Mais il n'était pas le styliste que Cioran a été.
Oui, styliste admirable. Mais alors aussi, Fabrice Lucchini, la drôlerie. La drôlerie. Moi, j'en donnerai trois exemples, vous allez en donner d'autres. Et c'est toujours la drôlerie du désespoir. Ce matin, après avoir entendu un astronome parler de milliards de soleils, j'ai renoncé à faire ma toilette. À quoi bon se laver encore? C'est merveilleux. Si je me suis toujours méfié de Freud, c'est mon père qui en porte la responsabilité. Il racontait ses rêves à ma mère et me gâchait ainsi toutes mes matinées. Et puis, le péché originel. Nier le péché originel serait une preuve qu'on n'a jamais élevé d'enfant. Je n'en ai pas élevé, il est vrai, mais il me suffit de me rappeler mes réactions quand j'en étais un moi-même pour ne plus avoir la moindre doute sur la première en date de nos flétrissures. Voilà quand même qui va contre tous les airs du temps, et notamment le nôtre, mais vous aussi, vous puisez dans Cioran.
Par exemple, Alain,
oui,
je suis étonné de voir quand je dis, quand Cioran écrit « Ne nous suicidons pas tout de suite, il y a encore quelqu'un à décevoir », les gens sont morts de rire, c'est quand même étonnant. Ou quand il dit, par exemple, que « Mais qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Je déplore ». Alors, vous savez, on a parlé de Mallarmé. Mallarmé a dit de Rimbaud une phrase, je crois que c'est Mallarmé qui l'a dit, j'en suis presque sûr. Il a dit « Rimbaud se passant considérable ». Eh bien, moi, modestement, ce qui me touche dans Cioran, c'est ce piéton badaud, insomniaque, contradictoire, extraordinairement contradictoire, de mauvaise foi, et qui erre dans Paris car son insomnie l'entraîne à errer dans le Luxembourg. Et tout d'un coup, il voit Beckett. Ils sont amis intimes, hein, je ne me trompe pas. Ils sont amis intimes avec Beckett. Il voit Beckett dans un coin. Alors, spontanément, comme nous tous, on va le voir. Et tout d'un coup, il dit « Oh, pourquoi le déranger ?» Il avait l'air un peu déprimé, triste, comme un des personnages de son théâtre. Et puis, si j'arrive, on va parler. Dans la conversation, il y a toujours du cabotinage. Chacun se met en avant. Moi, je pense que le mieux, c'est de le laisser tranquille, car Beckett est l'homme du monologue muet, et il se barre à côté sans le déranger. Je trouve ça sublime de courtoisie. C'est-à-dire, ils sont amis intimes. C'est ça qui est bouleversant, si j'ai encore une minute, ce qui est
bien
bouleversant
sûr.
Chez Cioran. Il le dit d'ailleurs, il y a une lettre bouleversante à la fin de cette lecture où il dit « Je suis fini, c'est quelques mois avant l'Alzheimer. » Jean d'Ormesson m'en parlait d'ailleurs beaucoup. Il a manifestement connu aussi un peu Jean d'Ormesson, Cioran. Il écrit, il y a un Portugais qui écrit une thèse sur lui, ou non, un Espagnol je crois, Torres je crois, je connais pas bien, et il écrit une thèse effrayante qui a 17 000 pages, qui s'appelle « Le labyrinthe de la pensée » ou « Le concept du désespoir chez Cioran », un truc que t'as pas envie de lire quand t'es pas en forme, hein, n'importe comment. Tout Cioran doit être lu quand ça va pas trop mal. Parce que si tu vas très mal et que tu te fais de l'inconvénient d'être né à haute dose, c'est un peu inquiétant. Mais il écrit à ce bonhomme philosophe et il lui dit « Vous avez raison de mettre en avant mes contradictions. Je suis rempli. Mais vous savez pourquoi j'ai passé mon temps à pratiquer le paradoxe ? Parce que je ne supporte pas la dictature des évidences. » Vous comprenez, cher ami, je m'ennuie constamment. Et comme dirait Madame Dudéfant, que je cite souvent dans le spectacle, qu'est-ce que l'ennui ? C'est aussi beau que du Pascal. D'ailleurs, Pascal est le seul philosophe qu'il ne supporte pas qu'on attaque. Et d'ailleurs, il a attaqué Paul Valéry dans Exercice d'admiration parce que Monsieur Valéry a dit qu'il aimait pas trop Pascal à un moment et que Paul Valéry a fini par dire « J'ai fait ce que j'ai pu ». Alors ça lui a beaucoup plu, cette phrase. « J'ai fait ce que j'ai pu ». Et par rapport à l'enthousiasme obligatoire de notre société, Cioran, un bon coup de déprime drôle, un bon coup de dépression, l'entraîne à définir l'ennui dans ces termes. L'ennui, c'est l'expérience la plus profonde, c'est-à-dire enregistrer la nullité de chaque instant avec la certitude que le suivant sera pire encore. Et là, ça donne un écho à Pascal, effectivement.
Écho à Pascal, et alors sur Beckett, ce qui est tout à fait étonnant, il dit de Beckett, Cioran, il ne débine personne. Et il dit, moi, si on m'empêchait de médire, quel trouble et quel malaise, quelle complication en perspective.
C'est génial.
C'est magnifique.
C'est oser pas être un mec bien.
Mais alors, justement, Mec bien, vous avez annoncé la couleur, Jean-Paul Enthoven, et parlons-en brièvement, oui, mais on ne peut pas esquiver le sujet, le passé du Cioran, ce besoin qu'il a eu d'ailleurs de la camisole de force du Français pour échapper définitivement à son passé. Quel est ce passé ?
Il a eu une jeunesse folle, dont on a eu connaissance après la chute du régime de Ceaușescu et l'ouverture des archives roumaines. Évidemment, beaucoup de gens le savaient. Mircea Eliade m'en avait parlé par pure méchanceté. Je ne l'avais pas cru, d'ailleurs. Mais il avait écrit dans un livre qui s'appelle « La transfiguration de la Roumanie » et d'autres livres qu'on a lus par la suite, « Des larmes et des seins », etc. Il avait écrit des choses terribles. Il avait loué Hitler d'avoir supprimé l'esprit critique en Allemagne. Il m'avait dit des phrases étranges à moi. Il m'avait dit un jour « Kafka était juif et malade, donc doublement malade ». Ça m'avait toujours intrigué. Il a toujours eu un problème dans sa jeunesse frénétique avec l'antisémitisme. Il a trouvé que la nuit des longs couteaux, il a écrit un grand texte, la nuit des longs couteaux était une opération admirable. Donc, si vous voulez, il y a des choses totalement étranges. Son traducteur en allemand, qui était Paul Celan, le poète, lui-même, qui était juif, il ne lui a jamais dit qu'il avait été passionnément antisémite. Et, curieusement, Cioran n'a jamais fait son autocritique.
Alors là, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais disons qu'il s'est passé quelque chose à la mort de Cioran. En général, à la mort d'un penseur ou d'un écrivain, les polémiques se taisent. Et là, elles sont apparues, c'est-à-dire que Cioran ne connaissait pas son passé, et dans Le Monde est tout de suite été publié l'article d'un chercheur qui nous a parlé de la transfiguration de la Roumanie et qui a dit qu'il fallait considérer tous les livres qui ont suivi comme le grand camouflage de ce crime originel. Or, il me semble qu'on peut dire exactement l'inverse, que l'œuvre tout entière de Cioran apparaît comme une méditation sans fin sur le délire idéologique dans lequel il a été plongé lorsqu'il avait 20 ans. Et j'ai publié autrefois, dans Le Messager européen, une revue annuelle, un texte de 1949 qui s'appelle « Mon pays ». Et Cioran dit ceci, j'en ai un extrait, « À l'époque où j'étais jeune, toute l'Europe croyait à la jeunesse. Toute l'Europe la poussait à la politique, aux affaires d'État. Ajoutez à cela que le jeune est théoricien, demi-philosophe, et qu'il lui faut coûte que coûte un idéal déraisonnable. Il ne s'accommode pas d'une philosophie modeste. Il est fanatique, il compte sur l'insensé et en attend tout. » Nous, les jeunes de mon pays, vivions d'insensés. C'était notre pain quotidien, placé dans un coin de l'Europe, méprisé ou négligé par l'univers. Nous voulions faire parler de nous. Les uns, pour y parvenir, usaient du revolver, les autres débitaient les pires absurdités, les théories les plus saugrenues. Et quant à moi, je devais perdre, plus tard, jusqu'au goût de jouer à la frénésie, à la convulsion, à la folie. Et on peut dire, me semble-t-il, qu'il a passé toute son œuvre à expier ses enthousiasmes. Parce que vous dites, cet homme se contredit, mais sur un point, il ne se contredit pas. Son éloge du scepticisme. Le scepticisme est un exercice de défascination. Donc, il a médité sa folie de jeunesse.
Oui. Alors j'ai appelé votre fils, Raphaël Enthoven, parce que quand j'ai lu toutes ces choses que je connaissais pas très bien, c'est autour de 20 ans qu'il a eu cette hystérie-là. J'ai appelé votre fils et je lui ai dit, c'est quand même déprimant, ce mec a l'air un mec plutôt pas mal, enfin pas mal. Et votre fils m'a éclairé en me disant, écoute, les erreurs de jeunesse, d'exaltation. Alors moi c'est vrai que j'ai... Alors, c'est peut-être pas comparable. C'est vrai, j'ai connu très bien Claude Roy, qui avait été manifestement royaliste aussi.
Bon. Oui, Action Française.
Action Française.
D'où son pseudonyme, Roy.
Voilà, exactement. Et à chaque fois que je lui parlais de Nietzsche, j'adorais lui dire cette phrase, j'ai cru voir de grands hommes et je n'ai vu que des singes de leur propre idéal. Mais j'ai l'impression qu'il s'est rattrapé quand même, avec un truc un peu bizarre dans La Tentation d'exister, cet amour démesuré du peuple juif qui s'appelle le peuple de solitaire, où les gens, Yasmine Areza me l'avait offert, c'est une espèce d'allégorie presque inquiétante d'amour pour tout ce peuple qui l'admire et qui dit que c'est merveilleux. Enfin, des phrases très étonnantes. Une ville sans juifs est une ville morte. Ça, c'est les phrases de Cioran dans La Tentation d'exister. Vous pensez que ça a duré jusqu'à quand, cette hystérie?
Je pense que quand il a plongé dans le français, avec le précis de décomposition, qui date de 49, n'est-ce pas? À ce moment-là, il s'est désintoxiqué. Il faisait de très brèves allusions. Il m'a dit une fois, je suis comme ces femmes dont on dit qu'elles ont un passé. Mais ça n'allait pas plus loin.
C'est beau.
Oui.
Ça, c'est beau.
Et c'est quand même lui, ça je crois que j'en ai une trace écrite. Il m'avait envoyé un jour une petite mot que j'ai quelque part, dans lequel il cite la phrase de Macbeth, tous les parfums de l'Arabie ne pourront pas effacer cette tâche. Pourquoi est-ce qu'il m'avait écrit cette phrase?
Ah oui, il était tourmenté.
Ah oui,
évidemment. Et dans votre rapport avec lui, vous n'avez pas du tout senti une animosité?
Mais pas du tout. Mais moi, je ne reconnais jamais les gens qui ont été des antisémites et qui ne le sont plus. Mais quand même, il refusait tous les prix. Ce qui était très frappant parce qu'il vivait dans la misère tout de même. Oui. Et quand il a reçu le prix Paul Morand, qui était un prix très richement doté, il l'a refusé. Or, à l'époque, le prix Paul Morand était financé par l'épouse de Paul Morand, la princesse Soudzo.
Ah oui, alors elle.
Et roumaine.
Et donc, c'est même elle qui a communiqué à Morand, presque.
Oui, voilà. Il ne voulait pas, et lui, il se débrouillait très bien tout seul, Morand. Oui.
Là, il y a des gens qui disent que c'est elle qui était la plus
peut-être. La chouette qui portait une minerve, comme disait Cocteau. Et alors, il voulait pas trop toucher à ça. Et les trois Roumains de Paris, donc je répète, Ionesco, Mircea Eliade et lui-même, avaient cette espèce de secret en commun. Ionesco en était exempt, il n'a jamais été antisémite. Mircea Eliade, oui. Et Cioran, voilà.
Mais d'un autre côté, il va très loin dans sa critique du fanatisme, puisqu'il en arrive à écrire, Cioran, « Point d'être aussi dangereux que ceux qui ont souffert pour une croyance, les grands persécuteurs se recrutent parmi les martyrs à qui on n'a pas coupé la tête. » Et il dit que la chance de la France, justement, par rapport à l'Allemagne, c'est d'avoir commencé par un sceptique, Montaigne. Et ce faisant, d'ailleurs, il rejoint Nietzsche. « Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude », écrivait Nietzsche. Et puis, les martyrs ont nui à la vérité. Les supplices des martyrs ont été un grand malheur de l'histoire. Ils ont séduit. Aujourd'hui encore, il n'est besoin que d'une certaine brutalité dans la persécution pour donner à des sectaires quelconques une réputation honorable. Et une même critique de la conviction chez l'un et chez l'autre. Nietzsche, il y a longtemps déjà que j'ai suggéré que les convictions sont peut-être des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. Même méfiance à l'égard des convictions chez Cioran. D'ailleurs, méfiance que personnellement, je ne partage pas. Mais c'est ce que sinon, je devrais rendre...
Mais quand même, vous êtes passé quand même d'une position, j'allais pas dire de gauchiste, marxiste, léniniste, mais non, vous étiez quand même très à gauche. Et maintenant, vous êtes tout à fait, non pas en vous réduisant, pas un conservateur, au contraire, mais vous êtes...
Non, réactionnaire, carrément.
Non, je ne dirais pas ça, je dirais un homme attentif à cette effrayante agression de ce que vous appelez le wokisme. Et vous êtes adoré en France. Je déjeunais avec Pascal Bonitzer hier, qui me disait « Le combat de Finkielkraut contre le wokisme est un combat historique. »
C'est incroyable, parce qu'il a fait un film... Contre moi.
Je jouais dedans.
Je jouais dedans, en plus, Kini, sortez.
Mais je ne savais même pas que c'était vous.
Ben oui, c'est parce que j'avais critiqué.
Vous avez des beaux
un
yeux,
film
Alain.
Underground de Kusturica sans l'avoir vu. Parce que j'avais lu dans les cahiers du cinéma un texte de Kusturica où il expliquait que les Serbes avaient résisté et que les Croates avaient été horribles.
Je ne vais pas tout lire quand je fais un film je voulais pas.
Imaginons une conversation entre Cioran et Alain Finkielkraut. Je pense qu'il se serait entendu sur la plupart des sujets, mais il aurait déploré vos convictions, Alain.
Oui.
Il les aurait déplorées. Il aurait trouvé que c'était pas la peine. Il n'aimait pas ce qu'il disait. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Il fait un portrait de Sartre dans Précis de décomposition. Il fait un portrait de Sartre, sans le nommer, bien sûr. Il appelle ça un entrepreneur d'opinion. Et c'est vrai qu'il aurait pensé que Alain était un peu entrepreneur d'opinion. Et il ne supportait pas les gens qui ne doutaient pas de ce à quoi il croyait.
Oui, Et justement, d'ailleurs, il y a un côté qui ne supportait pas chez Nietzsche dans les cahiers que je trouve extraordinaire.
Oui. Je suis pas d'accord, je pourrais parler après.
Bien sûr.
D'accord.
Vous avez le droit de m'interrompre à tout moment.
Non, pas du tout, au contraire, je vous mets en avant
donc,
chaque seconde.
Nietzsche s'est lancé avec la connerie du surhomme. C'est vraiment une tâche sur sa réputation. Dire qu'un esprit capable d'envoler cynique d'une rare envergure ait pu se laisser tenter par une vision aussi niaise. L'enthousiasme en matière de prophétie ne vaut rien. Elle attire les foules et irrite les délicats. Toute idée trop positive est franchement grossière, même si elle émane d'un esprit subtil et profond.
C'est admirable, je répondrai.
C'est génial.
C'est génial, mais je répondrai alors super modestement. Il devrait baisser d'un ton sur Nietzsche. Voilà ma petite pensée. Pourquoi ? Parce qu'il y a Yann Moix qui a dit dans un journal très riche, une phrase pas bête, c'est un peu un Nietzsche miniature, on pourrait dire, de Cioran. Il est là sur Nietzsche. C'est pas la partie que j'aime le plus, parce que ce que j'aime, moi, c'est qu'est-ce qu'un fanatique, c'est la fin de la conversation. Tu vois, moi, j'aime mieux qu'il reste dans ses domaines plutôt que d'attaquer quand même. Je sais qu'on a fait un Nietzsche tous les deux.
Le surhomme, c'est vraiment, c'est une baudruche. Le moraliste déconvre les baudruches. Moi, j'ai les livres de Nietzsche toujours ouverts devant moi. Oui. Et notamment, Et son analyse du ressentiment.
Génial.
Son rapport à Rousseau. Tout ça est génial. Mais le surhomme, ça va.
Mais est-ce qu'on a une idée exacte de ce qu'il voulait ? Est-ce que c'était pas la fin ? Est-ce que, on ne sait pas trop, c'est comme l'éternel retour, qui est capable ? Alors, votre fils est super bon
encore
là-dessus. Oui, Raphaël Antoven sur Nietzsche.
Franchement,
pardonnez-moi.
Aujourd'hui, j'invite pas Raphaël, j'invite Jean-Paul.
Oui, mais Jean-Paul, c'est pareil. Jean-Paul, Raphaël.
Non, je peux vous dire que non.
Belle filiation.
Je peux vous dire
tout
que non.
Tout est héritage, disait Nietzsche. Tout n'est qu'héritage. Oui, Tout ce qui est bon est héritage.
Il y a des héritages que certains refusent.
Voilà. Il y a des héritages que certains refusent.
Je vais lui parler, alors.
Il y a des héritages que certains
refusent. Je vais m'en occuper.
Oui, vous avez du boulot.
Non, vous verrez. Alors, allons-y.
Oui, moi, je voudrais vous soumettre des réflexions admirables de Cioran sur les animaux et le silence. Les animaux, vous ne partagez pas, d'ailleurs, Jean-Paul Entoven, mon amour des animaux.
Non, mais ça m'intéresse.
La vache, sûrement.
Oui. Ah oui, bien sûr.
Sûrement l'épée, hein,
bien
vous
sûr.
Souvenez
oui.
Vous souvenez.
Les éléphants, la vache.
Ah, les éléphants.
Et oui. Les chiens.
Et oui.
Les éléphants.
Les chiens, les vaches. Moi, je la partage.
À tout âge réel des Juifs, disait à peu près Jabez, il faut ajouter 5000 ans. Les éléphants ont 5000 ans.
Oui, oui, ils sont
réels. C'est des animaux juifs.
Bien sûr.
Hein. Donc voilà, les animaux. La disparition des animaux...
Je vous avais prêté ce propos dans un livre, mais je ne savais pas qu'il était exact.
La disparition des animaux est un fait d'une gravité sans précédent. Leur bourreau envahit le paysage. Il n'y a plus de place que pour lui. L'horreur d'apercevoir un homme là où on pouvait contempler un cheval.
C'est sublime, je vais avoir une métaphore là-dessus tout de suite qui me vient. Il se promène aux zoos, il adore aller aux zoos.
Voilà, ben je l'avais, celle-là.
Et puis, ah ben alors allez-y, Alain.
Toutes ces bêtes ont une tenue décente,
sauf
hormis les singes, on sent que l'homme
n'est pas loin.
Oui, c'est magnifique. Et juste un mot, le pays qu'il préférait, c'était la Mongolie, où il n'avait évidemment jamais été, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait beaucoup plus de chevaux que d'hommes dans ce pays.
Et il y a très belle métaphore de Nietzsche là-dessus. Qu'est-ce qu'un homme, un animal malade ?
Ben voilà. Donc Nietzsche revient.
Ah ben
Le silence aussi, ça je trouve extraordinaire dans Écartèlement. La disparition du silence doit être comptée parmi les indices annonciateurs de la fin. Ce n'est plus à cause de son impudicité ni de ses débauches qu'aujourd'hui Babylone, la grande, mérite de s'écrouler, mais à cause de son tintamarre et de son tapage, des stridences de sa ferraille et des forcenés qui n'arrivent pas à s'en rassasier.
La fin du silence.
Oui, Jean-Paul Entoven.
On a parlé d'un Cioran obsessionnel, une sorte de peintre noir sur noir, sous l'âge, hein, carrément, noir sur noir, ou un côté même lancinant, il se répétait un boléro de Ravel perpétuel, n'est-ce pas ? Mais il y en avait un autre dont on parle peu, c'était le Cioran amoureux. Par exemple, il était une espèce de fleur bleue dès que l'émotion s'approchait de lui. Par exemple, dans ses textes sur Sissi impératrice, qu'il vénérait complètement, parce que c'est une femme mélancolique qui avait appelé son cheval Nihilismus. Et puis, à la fin de sa vie, il a eu un amour avec cette Autrichienne.
Parallèlement à Madame Simone Bouée.
Oui, bien sûr, oui.
Simone Bouée, il faut en dire un mot.
Alors, oui. Et Simone Bouée, c'est évidemment. Mais il était très sensible à... Il disait même, on a beau être revenu de tout, dès que l'amour rentre en contact avec vous, on devient une midinette. Donc, il ne refusait pas cette attitude.
Alors, en même temps, il y a une citation de lui que je n'aime pas du tout, dans La Chute dans le temps, que je trouve terrible, mais qui est, si vous voulez, la limite du moraliste. Le moraliste qui dégonfle impitoyablement toutes les baudruches. À tel point, le doute sur soi travaille les êtres que pour y remédier, ils ont inventé l'amour, pacte tacite entre deux malheureux pour se surestimer, pour se louanger sans vergogne.
J'ai retrouvé la citation exacte quand même. On est dans la contradiction. Plus un esprit est revenu de tout, plus il risque, si l'amour le frappe, de réagir en midinette.
Ah voilà, heureusement il y a ça. Mais je pense aussi à Valérie, que Suran n'aimait pas beaucoup, vous l'avez dit, à cause de Pascal. Mais Valérie a cette phrase extraordinaire. Oh non, mais vous avez vexé là. L'homme n'est pas si simple qu'il suffise de le rabaisser pour le connaître. L'homme n'est pas si simple qu'il suffise de le rabaisser pour le connaître.
C'est Suran.
Paul Valéry.
Ah, c'est sublime.
Mais c'est une réponse à Suran. C'est une réponse à Suran.
Ça pourrait être du Suran, d'ailleurs, ça.
Oui. Aussi. Mais oui, parce que c'est un homme d'aphorisme et pas de système. Non. Bien sûr. Mais alors, dans votre spectacle, tout est passionnant, mais il y a un moment que j'ai trouvé extraordinaire. C'est un spectacle un peu modeste. Vous dites, Suran, par l'intermédiaire de son anthologie des portraits.
Oui.
Donc, par l'intermédiaire d'autres auteurs. Oui. Et un auteur, je dirais pas une autrice, je suis allergique à ce mot, comme vous, Fabrice Luchini, mais quand elle est romancière, c'est facile, parce qu'on a choix entre écrivaine et autrice, que je déteste pareillement. Oui. Donc une femme, Madame de Genlis, a écrit un portrait
de Jean-Jacques Rousseau.
Narratif inouï.
Ça me rassure.
Jean-Jacques Rousseau. Inouï.
Alain, ça me rassure. Vous voulez que je le dise je vais pas le dire, mais le résumé.
Bien sûr.
Bon, c'est ça formidable. Me rassure parce que ma fille avait décroché à ce moment-là. Alors ça m'a perturbé. Alors déjà que je suis insomniaque, c'est le seul point commun que j'ai avec Suran, c'est que je suis insomniaque. Et donc je me suis dit merde. Et ben voilà, c'est que Madame de Genlis, qui est une femme, une femme très importante, parce qu'elle s'occupait des gosses, enfin elle s'occupait intellectuellement des gosses de Louis XV. Je me trompe pas. Donc c'est une femme qui était très brillante et elle avait une méthode d'éducation exceptionnelle qui faisait dire à George Sand que c'était la première féministe. Bon. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est qu'elle adore Jean-Jacques Rousseau et elle l'invite. Ils viennent depuis 5-6 mois tous les jours. Il n'avait jamais senti en lui la moindre susceptibilité. Jusqu'au jour où, figurez-vous, qu'il dit, Rousseau, qu'il adore un vin qui s'appelle le vin de Sillery, couleur pelure d'oignon. Le mari de Madame de Genlis, qui s'appelle Monsieur de Genlis, lui dit « Oh ben, je vais vous en envoyer quelques bouteilles. » Très 18e, je sais, ils passent leur temps à se faire des trucs de courtoisie. « Eh ben, envoyez-moi 2 bouteilles. » Malheureusement, Monsieur de Genlis envoie 25 bouteilles. Et j'ai pensé que c'était une faute de goût. « Pas du tout, m'a dit mon historien, Monsieur Dandré. » Il me dit « Non, il a envoyé 25 bouteilles parce qu'il est généreux. » Ça rend hystérique. Selon Madame de Genlis, Jean-Jacques Rousseau, qui dit « Je ne veux plus vous voir de ma vie », vous entendez, vous êtes une... C'est pas des termes excessifs comme ça, mais vous êtes immonde, c'est inacceptable. Alors ils ne comprennent pas, ils envoient leurs potes parce qu'ils n'ont rien à foutre, dans le bon sens, hein, parce que comme dirait Suran, le 18e est mon siècle préféré parce que c'est le siècle qui s'est le plus ennuyé, qui a passé son temps à tuer le temps. Et donc, ils envoient leur pote, qui est écrivain, auteur à la Comédie Française, et il leur annonce qu'il a été blessé. Donc, Monsieur de Genlis dit à Madame de Genlis, « Eh ben, envoyez 2 bouteilles, comme ça, il va peut-être revenir, comme nous l'aimons. » Elle envoie 2 bouteilles, il se calme, il continue à mépriser le mari. Alors arrive Monsieur de Sauvigny, qui est un écrivain, et qui écrit une pièce qui s'appelle « Le Persifleur » à la Comédie Française. Jean-Jacques Rousseau avait dit à Madame de Genlis, vous savez, je ne supporte pas de sortir, je n'aime pas du tout, je suis trop star pour ça, je ne veux pas sortir. Mais Madame de Genlis lui dit, j'ai une loge grillée pour aller voir cette pièce. Et comme vous êtes très amie avec Monsieur de Genlis, cette loge grillée va vous adapter, va s'adapter à votre caractère. Parce que personne ne vous verra, vous comprenez? Et vous verrez tout. Et en plus, j'ai une entrée privée. Alors, Jean-Jacques Rousseau dit, eh ben, soit. Il vient la chercher à 5 heures. Putain, faut que j'aille vite, hein, pour tout résumer. À 5 heures, il débarque. Et Monsieur de Jean-Jacques Rousseau dit à Madame de Genlis, vous êtes bien parée. C'est extraordinaire ce mot. Vous êtes bien paré pour rester dans une loge grillée. Alors Madame de Genlis dit, mais paré, je me suis paré pour vous. Voyez, la supériorité de ce siècle par rapport au nôtre. Vous êtes bien paré. Et l'autre répond, mais je me suis paré pour vous. Et puis d'ailleurs, comme dit Madame de Genlis, j'avais des fleurs dans les cheveux. J'étais mise très simplement, hein, tout simple. Mais je vous le dis quand même, ils arrivent. Au moment où ils rentrent dans la loge, Madame de Genlis veut baisser la grille pour que personne ne les voie. Et là, il devient hystérique. Et ils montent la grille et ils se battent. Alors, est-ce qu'elle exagère? Patrick Dandré, spécialiste de ce siècle, surtout du 17e et du 18e, me dit que non, tout est réel. Il ne veut pas qu'on baisse. Il dit, je me mettrai derrière vous, derrière votre mari, ça sera parfait, je ne demande rien. Mais malheureusement, en plein milieu de la pièce, la thèse de Madame de Genlis, c'est que Rousseau se penche pour qu'on le voie très fortement. Et il ne se contente pas de le faire une fois, il le fait deux fois. Et au point que tout le théâtre crie, c'est « Il y a Jean-Jacques Rousseau, il y a Jean-Jacques Rousseau !» Vous voulez parler, je termine ? Eh bien, ça se termine par qu'il est fou de rage en sortant. Et Madame de Genlis dit, c'est pas un génie de littérature, Madame de Genlis, ça n'est pas sculpté comme Sciorran. Elle termine son truc en disant qu'il a refusé de passer le dîner avec nous et que la réalité, c'est qu'il ne supportait pas, il ne supportait pas qu'on ne le reconnaisse pas. Eh bien, ça se termine par cette phrase merveilleuse, je ne l'ai jamais revu depuis. Très, très bourge, tu sais, je ne l'ai jamais revu depuis. Elle dit même pas Jean-Jacques Rousseau. Et la synthèse, c'est que c'est un misanthrope qui était assoiffé de reconnaissance.
Et nous reviendrons assurément tout de suite.
Je vous demande, vous,
oui.
Est-ce que c'est vrai,
Jean-Paul Enthoven?
Oui, est-ce que c'est vrai? Quelle est la question?
Eh bien, la question, Jean-Paul, c'est un grand moment tous les deux.
Vous m'avez donné le vertige, là.
Vous êtes... Je fixais des vertiges, je notais l'inexprimable.
Oui,
là,
oui.
Là, je le rabot, je l'adore. Eh bien, est-ce qu'à votre avis, elle ne cherche pas la mule contre Jean-Jacques Rousseau?
Non, il était sa propre caricature, et je pense.
Moi, mais je vais le sauver.
Ah, oui.
Je vais le sauver.
Il est sauvable, bien sûr.
Non,
mais...
je n'aime alors, pas chez
vous
lui.
Ce portrait, alors
j'aime le Rousseau moraliste. Je ne peux pas supporter le Rousseau politique qui pense que.
L'homme
tout...
est bon.
Et donc, oui, l'homme est bon et donc tout mal vient de la société et on va corriger la société et comme ça il n'y aura plus de mal sur la terre. Et ça a donné, pour en finir avec le mal, on va exterminer les méchants.
À ce point-là?
Ben, c'est la suite.
D'accord.
C'est la suite. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que Rousseau était précisément lui-même dévoré par l'amour propre et donc il en a fait l'analyse la plus géniale. Et pour votre spectacle, il y a une phrase de Rousseau sublime, Fabrice Luchini. Et nous aimerions autant ne pas être que de n'être pas regardé.
Bien
elle
sûr.
S'applique à tout le monde, c'est génial.
Oui,
c'est la définition de l'hystérie. Hein.
Et de la vanité.
Redites-la, Alain.
Et nous aimerions autant ne pas être que de n'être pas regardé. Et il y a, dans Rousseau, juge Jean-Jacques, une description des ravages de l'amour propre. L'amour de soi, formidable. L'amour propre est comparatif. Et il dit... Aussitôt qu'on prend l'habitude de se mesurer avec d'autres et de se transporter de soi pour s'assigner la première et meilleure place, il est impossible de ne pas prendre en aversion tout ce qui nous surpasse, tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui nous comprime, tout ce qui est en quelque chose nous empêche d'être tout.
C'est très curieux comme Rousseau a pris le pouvoir dans l'émission que nous faisons à l'instant.
Non, mais il va le quitter tout de suite. Mais simplement, il dit, les gens d'esprit, et surtout les gens de lettres, sont de tous les hommes, ceux qui ont une plus grande intensité d'amour propre, les moins portés à aimer, les plus portés à haïr. Votre expérience d'éditeur doit confirmer cette phrase, Jean-Paul Enthoven.
100 fois, bien sûr. Mais enfin, dans mon livre, d'ailleurs, je dis ce qu'il y a lieu de penser de cette profession.
Oui, et vous l'écrivez aussi, et on retrouve Sciorran. On va revenir définitivement à Sciorran. Je vous rassure tout de suite, Jean-Paul Enthoven. Nous en voulons à tous ceux qui ont choisi de vivre à la même époque que nous, qui courent à nos côtés, qui gênent nos pas ou nous laissent en arrière. En termes plus nets, Nous nous résignons à la supériorité d'un mort, jamais à celle d'un vivant, dont l'existence même constitue pour nous un reproche et un blâme, une invitation au vertige de la modestie. Voilà, c'est Sioran. Oui. Mais alors, justement, Jean-Paul Enthoven, Sioran, vous le rencontrez dans les années 70. Mm-hmm. Et dans les années 70, vous étiez au Nouvel Observateur.
Oui.
Vous avez même connu une ascension fulgurante.
Oui.
Vous étiez le protégé de Jean Daniel, dont d'ailleurs, dans votre livre, vous tracez un portrait très juste, c'est-à-dire à la fois affectueux et critique. Mais justement, c'était une époque progressiste.
Oui.
Comment vous accommodiez-vous de Sioran, de sa fréquentation et de sa lecture,
c'était
Jean-Paul Enthoven?
C'était un vaccin pour moi, évidemment. Et deuxièmement, je n'épousais pas l'enthousiasme de la compagnie que j'avais au Nouvel Observateur de l'époque. Et Sioran m'a appris à me vacciner contre l'enthousiasme. Il me disait d'ailleurs assez drôlement que ce mot qu'il n'aimait pas et l'attitude qu'il n'aimait pas, nous avions, mon propre patronyme avait en commun avec ce mot d'enthousiasme les 5 premières lettres. Il me dit, c'est un peu votre cousin, n'est-ce pas? Mais méfiez-vous, c'est un peu votre cousin. Donc, c'est vrai que, à l'époque, il n'était pas facile de parler de Sioran dans le Nouvel Observateur.
Ah oui, quand même.
Non. Non.
Ah oui.
Non, parce que,
et en plus, à l'époque, on ignorait.
On ignorait, bien sûr. On ignorait.
C'est ce qu'on aimait pas, c'est son pessimisme.
Ce pessimisme, cette noirceur, ce manque d'enthousiasme, il n'était pas très union de la gauche, comme on dit. Vous voyez? Donc,
Alors justement, il n'était pas union de la gauche. Est-ce que vous parliez avec lui librement de l'actualité?
Non.
Ou est-ce qu'il s'y refusait?
Non. C'est pas qu'il s'y refusait, c'est que je n'y songeais même pas. Nos conversations portaient soit sur les choses les plus quotidiennes, les plus ordinaires de la vie, drôlement, comme cette rencontre avec Beckett, par exemple, là, ou sur les gens que nous connaissions en commun. Il aimait bien médire. Ça, il était très à l'aise.
Mais il aimait bien médire.
Oui, mais il s'en voulait.
Il s'en voulait, mais il médisait d'autres écrivains.
Oui, par exemple,
de personnages politiques.
Avec Paulhan, c'était très intéressant parce que Paulhan était son interlocuteur chez Gallimard. Mais en même temps, donc il lui était reconnaissant, ses ressources dépendaient un peu de Paulhan. Mais en même temps, quand Paulhan décide de solliciter des honneurs de rentrer à l'académie, etc., ça lui est insupportable. Donc il savait que tous les hommes étaient vaniteux, mais il leur reprochait de le montrer trop parfois, voilà.
Et donc, l'Académie française, c'était vaniteux.
Alors, Sioran considérait ça, rentrait ça dans la galerie des honneurs disponibles dans une société, bien sûr. Je ne sais pas si il aurait pensé durablement la même chose, mais c'était le cas à l'époque.
Mona Ouzouf, quand je me suis présenté à l'Académie française, je lui ai téléphoné pour lui dire, est-ce que je dois le faire? Ce n'était pas mon idée, c'était Pierre Nora et Hélène Carrière-Dancos qui m'avaient dit, présentez-vous. Et j'ai dit à Mona Ouzouf, qu'est-ce que je dois faire? Puisque je savais qu'elle avait refusé. Elle avait refusé alors que Nora la suppliait.
Bien sûr, bien sûr.
La suppliait. Et qu'elle aurait eu une élection de maréchal. Il n'y avait pas d'opposition possible à Mona Ouzouf. Et elle m'a dit cette phrase, si ma mère était encore vivante, je me serais présenté.
Mais vous m'avez dit à peu près la même chose quand je vous ai croisé un jour. Vous veniez d'être candidat, vous m'avez dit, c'est pour mes parents.
C'est pour mes parents, oui. C'est-à-dire, c'est mon fils qui m'avait dit ça. J'avais fait un conseil de famille, j'avais dit, qu'est-ce que je dois faire? Il m'avait dit, pense à tes parents, présente-toi. Et donc, j'ai obéi à mes parents, à mes grands-parents que je n'ai jamais connus, et à mon fils. Mais revenons à Sioran. Breton disait, le surréalisme est né d'une affirmation de foi sans limite dans le génie de la jeunesse. Donc, Sioran est l'anti-Breton. Est-ce que c'est ça qui vous a attiré en lui, Fabrice Luchini, ou d'autres choses encore?
Il est attachant, je ne sais pas comment.
Vous le trouvez attachant?
Extrêmement attachant.
Ah, ça,
parce
c'est
que contradictoire,
pourquoi?
Parce qu'il lit du bouddhisme comme un malade pendant 5 ans, jour et nuit. Il descend à la vie claire. Il achète une purée d'amandes. À cette époque-là, on mangeait beaucoup des purées d'amandes ou des purées de noisettes. Et puis, il arrive, et puis il y a le vendeur qui fait le joli cœur avec une dame très jolie. Et il ne le regarde même pas. Et il dit, c'est très bien, travaille le bouddhisme, travaille l'absence du moi.
Détachement.
Et ça dure 15, 20 minutes. il n'en peut plus. Et tout d'un coup, la dame s'en va et le vendeur demande à Sioran « Bon, alors à vous, monsieur !» Et Sioran réalise, après avoir regardé ce pot de purée d'amande, qu'elle est un peu jaunie. Alors il dit « Eh ben, j'ai changé d'avis, je vais plutôt prendre une boîte de purée de noisettes. » Et le vendeur le regarde et lui dit cette phrase étonnante « Faut savoir ce qu'on veut dans la vie !» Et là, il devient totalement hystérique, il prend les paquets, les trucs d'amande, il les jette sur le comptoir, il palpite, le cœur va mal. J'aime en Sioran l'échec. J'aime en Sioran le vaccin contre la positivité. J'aime Sioran comme j'aime Muret. J'aime Sioran, Muret le cite de temps en temps, mais j'aime Sioran parce qu'il est attachant, parce qu'il rate. Il rate tout. Et tiens, ben je vais dire une phrase d'Emmanuel Carrère que j'ai eue au téléphone hier soir, qui résume ma sensation par rapport à Sioran. C'est quelqu'un. Voilà la phrase d'Emmanuel Carrère, qui était là le même soir que vous au théâtre. Eh ben oui, c'est quelqu'un.
Jean-Paul Entoren.
Et cette phrase, autre phrase de Sioran, j'ai connu toute forme de déchéance, et y compris le succès. C'est à la fin de sa vie qu'il disait ça. Il avait peur aussi qu'on lui reproche de pas se suicider alors qu'il avait toute sa vie parlé de ça. Mais il expliquait aussi en même temps que c'est l'idée du suicide qui l'avait empêché de se suicider, voilà. Parce que il était toujours temps de le faire. donc on peut continuer puisque vu que il y a toujours cette porte de sortie. De l'existence. Oui. Mais évidemment, très attachant. Très attachant.
Et Beckett, donc, sur l'échec, raté encore.
Oui, raté mieux. Raté mieux.
Et puis, cette phrase inouïe, ça devrait aller, mais non.
Et la concierge qu'il rencontre, Debussy.
Fabrice Occhini.
La concierge qui lui dit, parce qu'il adorait cette concierge de l'hôtel de la Louisiane, il lui dit comme tous les matins, « Comment ça va aujourd'hui ?» dit Sioran à cette dame. Elle répond, « Ça suit son cours. » Et il s'est effondré. Parce que le génie de Sioran, c'est qu'il arrive à choper la métaphysique du quotidien. Mmh. Chaque phrase, quand le comptable qu'il traverse dans son immeuble, qui se plaint tout le temps, qui exagère ses mots, qui lui dit « J'en peux plus de vivre. » Et le pauvre Sioran, qui est quand même agrégé de philosophie, et qui lui dit « Bah, faut prendre les choses avec philosophie. » C'est pas quoi dire. C'est une phrase tellement conne. Et l'autre répond « Obligatoirement. » Et là, Sioran répond « Ça s'appelle l'utilité des adverbes. » Voilà. Mmh. Ça, j'aime ce Sioran-là, ce passant, non pas considérable comme Rimbaud, ce badaud, ce piéton. Et comme nous ne serons plus piétons, puisque nous avons des autorités qui nous empêchent d'être piétons, puisqu'il n'y a plus que des vélos qui nous agressent, qui nous crachent dessus, eh ben un piéton métaphysique, personnage de Beckett, pour moi, c'est Sioran.
C'est Sioran. Mais écoutez, on ne peut pas dire mieux... À moins que vous vouliez ajouter un mot, Jean-Paul Entoven.
J'étais très heureux d'être avec vous, Jean-Paul.
Et moi donc, mon cher.
Parce que c'est un bonheur d'être à côté de Jean-Paul et de vous. Parce que vous êtes très complémentaires. Il y a le soleil d'un côté, il y a l'affirmation Dionysos, c'est-à-dire je veux vivre heureux.
Et moi, c'est quoi? C'est
Hadès. Et vous, c'est la métaphysique merveilleuse de la problématique askénaze avec grandeur et culture et votre génie. C'est aimer la France! Au-dessus de tout.
Ne simplifiez pas.
Oui, mais je caricature pas, mais pour faire une fin, faut bien quand même aller rapide. D'accord. Et là, moi, je n'ai pas votre talent d'écrivain, ni votre talent de moraliste, Alain, mais je tiens à dire aux auditeurs qui sont nombreux, je vais vous le dire, j'en parlais à Adèle Van Rett hier soir.
Oh mon Dieu.
Elle vous aime. Et je parlais de vous tous les deux, et elle me disait, et c'est ma phrase, je peux vous dire, c'est un lieu de résistance.
Oh bah écoutez, là je suis confus, gêné, donc on
Dionysos,
va...
Dionysos, ça vous plaît qu'à moitié?
Oh, j'adore.
Vous êtes beaucoup plus Dionysos qu'Apollon.
Ça se discute.
Oui,
Mais je prends les deux.
Il a tout.
Je prends les deux.
Il a beaucoup pris de vous, le fils.
Alors, je terminerai sur une citation de Yeats, un des poèmes préférés de Sioran, « La vie est une perpétuelle préparation pour quelque chose qui n'arrive jamais. »
C'est génial.
Voilà.
Mais c'est génial.
Et alors, Jean-Paul Entoven, votre livre, je me retournerai souvent, c'est vos chers disparus. Il y a Sioran, mais il y a aussi, entre autres, Florence Malraux, Michel Schneider, Philippe Solers, Milan et Vera Kundera, et j'en oublie, bien sûr. Je me retournerai souvent, le livre est publié chez Grasset. Alors Lucchini, l'art du portrait se lance sur rang. Les Mathurins, où, quand?
Eh bien les Mathurins, octobre, novembre, décembre, et certainement janvier, février, parce que je joue Hugo plus que Sioran, parce que j'aime mieux être nourri par Hugo, je le dis, que par Sioran. Mais Sioran, c'est une fois par semaine, et Hugo, c'est trois fois par semaine.
Merci beaucoup. C'était donc Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Frédéric Cayrou. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Boualem Sansal, l'Algérie et nous. Et mes invités seront Pascal Bruckner et Jean-Christophe Ruffin dans un instant, Concordance des temps avec Jean-Noël Jeannonet.